cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 13 décembre l'an 2000 à Saint-Jodard.
Dans le cours de philosophie première passée, vous disiez que du point de vue de la vie, on ne sort pas de l'entelekeia. Si je comprends bien, c'est à cause de l'immanence de la vie. Le vivant, en tant que vivant, a sa fin en lui-même. Oui. L'âme est entelekeia. Aristote ne dit pas energeia, mais entelekeia. Est-ce que cela veut dire que l'entelekeia est uniquement du côté de l'être en considérant que le vivant reçoit une certaine détermination de l'extérieur? Oui. Le vivant, qui est l'homme, ne peut pas avoir sa fin energeia en lui-même. Par son opération, il se perfectionne pour atteindre sa fin. Et sa fin, c'est l'objet qu'il contemple, c'est la réalité qu'il contemple. Et sa contemplation est entelekeia, celui qui demeure dans sa fin. Et c'est en raison que le vivant, en tant que vivant, se détermine. Il se nourrit. Ce que dit Aristote. Il se nourrit. En vous nourrissant, c'est vous qui agissez. Et vous prenez une nourriture qui est en dehors de vous. Le vivant assimile. Alors, on voit bien la différence là entre entelekeia d'Aristote, l'ayance dans sa fin, et puis energeia, l'acte. L'acte est au niveau de l'être, et entelekeia est au niveau du vivant. C'est dans ce sens-là qu'il faut bien discerner le vivant, la vie et l'être. Il n'y a qu'en Dieu où l'être et la vie ne font qu'un. En toute créature, la vie et l'être sont distinctes. Je peux, en vivant pleinement de mon intelligence et de ma volonté, je peux contempler. Mais ma contemplation me met en dehors de moi. N'oubliez jamais, n'est-ce pas, ce que disait le père Dehaut, la différence entre le petit chat qui ronronne en face d'un feu bien chaud l'hiver, il est très bien. Et le vol de l'aigle. On est capable, en tant que vivant, de ramener la contemplation à nous. C'est terrible. Je ramène Dieu, il est pour moi. Non, je suis pour Dieu. Vous voyez bien la différence du mouvement, je ramène à moi. L'aliment, il est pour moi, je l'assimile. Mais la contemplation, je suis pour Dieu. C'est très important parce que c'est la grande erreur depuis Feuerbach. C'est la grande erreur depuis Occam. Vous voyez,
C'est une erreur qui a coûté cher à l'Église. Hein. 14e siècle. On est enfoncé le vivant va tellement bien, il se finalise tellement bien qu'il est la fin. Se finaliser, c'est très bien, c'est regarder l'autre. Mais être sa fin, c'est soi-même, se regarder. C'est pour ça que c'est très très important de bien comprendre cette distinction. Et vous comprenez, entelekeia et energeia se traduisent par actus. Alors la scolastique dira acte premier, acte second. Elle ne tombe pas dans le panneau. Elle dit acte premier, acte second. Donc elle distingue bien ces deux actes. Mais c'est dommage qu'on a le même mot. Vous voyez, une traduction qui n'est pas juste. Je ne peux pas traduire energeia et entelekeia par actus. Parce qu'il y a un ordre entre les deux. Entelekeia est ordonné à energeia. Vous disiez aussi que la contemplation n'est pas une fin. Alors, il faut comprendre. Hein, mais un moyen conjoint qui nous permet d'atteindre notre fin. Ma fin. Ma fin, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir fait découvrir cela. Très bien. Mais je me demande de quelle contemplation il s'agit. De toute contemplation. Même la contemplation philosophique. La contemplation est nécessairement l'autre que je regarde. C'est pas moi que je regarde quand je contemple. Ce sont les autres qui me regardent contempler. Mais moi, je ne me regarde pas. Je regarde l'objet que je contemple, Dieu que je contemple. Il s'agit, si c'est la contemplation chrétienne ou même religieuse, cela n'est-il pas ramener la contemplation à l'adoration ? Oui. Dans l'adoration, même dans l'adoration, je n'adore pas moi-même, j'adore Dieu. Ou bien l'adoration et la contemplation sont-elles deux moyens, qui nous permettent d'atteindre la fin, entelekeia, la fin, energeia, pardon, la réalité ultime. L'objet de la contemplation et l'objet de l'adoration. J'adore Dieu et je contemple Dieu. J'adore Dieu par Jésus. Je contemple par Jésus. Là, vous voyez, Jésus, dans son humanité sainte, contemple le Père. Et par lui et avec lui, je contemple le Père. En étant uni à la contemplation du Christ, je contemple le Père. Bon, ce qui est vrai de la contemplation chrétienne, c'est net, est vrai de toute contemplation. La contemplation est un acte d'intelligence soutenu par l'amour. Soutenu par l'amour, il faut aimer beaucoup la vérité pour contempler. Parce que la contemplation humaine est fragile. nous avons vu l'acte au niveau de l'être. L'acte, tout ce qui est en puissance, est ordonné à l'acte. L'acte est acte par lui-même et en lui-même. La puissance est tout ordonnée à l'acte. La puissance dépend toujours de l'acte et l'acte ne dépend pas de la puissance. Nous avons donc vu l'acte au niveau de la vie. La vie est premièrement la vie de l'intelligence. C'est la vie de l'intelligence qui est le degré suprême de vie pour moi. C'est dans l'intelligence et par l'acte d'intelligence, pas l'acte de raison, hein, l'acte d'intelligence, qui est la contemplation, que je découvre parfaitement ce qu'est la vie. Que je peux là attribuer à Dieu. Dieu vit une vie de lumière. Maintenant, je vais regarder l'acte et la puissance du côté de la volonté. Puisque la vie de l'esprit qui est en moi est l'intelligence et la volonté. J'ai une vie spirituelle par mon intelligence qui va jusqu'à la contemplation. J'ai une vie spirituelle par la volonté dans l'amour spirituel. Je suis capable d'aimer spirituellement. Ceci est contre Descartes. Hein. Soulignez bien, tous les cartésiens. Comprenez bien que Descartes considère que l'amour n'est qu'au niveau de la passion et que la volonté est une volonté d'efficacité. On vous dit, ah, voilà un homme volontaire. C'est l'efficacité. C'est vrai, dans le langage, volonté est devenu très simple. Mais dans le langage grec, l'appétit, la boulessis, est d'abord une faculté pour aimer. Ainsi qu'en latin, l'appétit est d'abord une faculté pour aimer. C'est depuis Descartes qu'au fond, l'amour se ramène toujours à l'amour passionnel, eros, en grec. Et il n'y a plus d'amour spirituel. Je dis ça pour ceux qui sont influencés par Descartes. Et tout Français est influencé par Descartes. Tant qu'il n'a pas corrigé Descartes, il ne comprend pas. C'est très important. Et ceux qui ne sont pas français comprennent très bien que la France a été marquée par Descartes. C'est très curieux. Chaque pays est marqué par une erreur. Hein. l'originalité, hélas, et rarement du côté de la perfection. L'originalité se voit beaucoup mieux du côté négatif. Et chaque pays a sa tare. Cela ne veut pas dire que l'intelligence est tarée. Ça veut dire que l'éducation qu'on a reçue n'a pas été juste. Et par l'éducation, cette tare a gagné plus profondément notre manière d'être. C'est très important d'être conscient de cela. Oui. Alors, voyons la vie de la bouleschis, de la volonté. L'expérience la plus parfaite de la volonté, c'est dans le choix amical. Quand vous dites à quelqu'un et que ça sort vraiment de votre cœur, je t'aime, tu es mon ami. C'est un choix. Un choix qui implique une intention de vie, qui implique un appétit radical d'amour spirituel. Ce n'est plus la bouleschis, ce n'est plus l'éros, la volonté passionnelle de concupiscence. Quand vous êtes séduit, expérience de la séduction au point de vue de l'amour. On est séduit par quelqu'un. Il y a une grosse part de passion. Et on a une peine énorme à faire passer cette séduction à un amour spirituel. Toute préparation au mariage, c'est de faire passer la séduction passionnelle à un amour spirituel. De l'époux à l'égard de l'épouse, et de l'épouse à l'égard de l'époux. C'est très important. Donc, ce que nous voyons là est capital pour nous. C'est très important de comprendre cela, et de le comprendre d'abord du côté de l'intelligence et du côté de la volonté, de le comprendre au plan philosophique, de comprendre que nous sommes capables de d'émettre un amour spirituel. La plupart du temps, les gens confondent. Et dès qu'il y a l'amour, ah, ils disent tout de suite, c'est passionnel. Mais non, c'est pas nécessairement passionnel. Ça peut être l'amour d'amitié. Je vous ai déjà montré, et je reprends ici, je reprends au plan métaphysique. Regardez l'amitié au plan métaphysique. Ça, c'est très important. Regardez l'amitié au plan métaphysique, c'est de comprendre que l'acte suprême de ma volonté au plan philosophique, au plan humain, c'est d'aimer une personne. Et d'aimer une personne comme un ami. C'est-à-dire d'aimer cette personne, de la choisir comme ami, parce que je sais qu'elle m'a choisi comme ami. Donc, c'est d'aimer une personne qui me choisit comme ami. C'est donc un choix à l'égard d'un amour, d'une personne qui m'aime. d'habitude, je peux très bien aimer un bien. Toute personne est un bien pour moi. Toute personne, tout autre est un bien. Chaque personne, autre que moi, a pour moi quelque chose que je n'ai pas. Et donc, elle peut toujours être aimée comme me finalisant, comme m'apportant quelque chose, parce qu'elle m'apporte quelque chose que je n'ai pas. C'est très important, ça. Autrement, vous voyez, on s'aime tellement qu'on est la seule personne intelligente au monde, la seule personne digne d'être une personne. Ça peut aller jusque-là, l'orgueil. On se gonfle. La femme de La Fontaine, la grenouille qui se gonfle, aussi fortement qu'elle le peut. On se gonfle tout le temps. Et il n'y a personne pour nous dégonfler. C'était à mettre la petite aiguille qui dégonfle. Il y a donc dans l'amour spirituel un choix à l'égard de quelqu'un qu'on considère comme un ami qui m'aime, qui me choisit aussi. Ce sont deux choix mutuels qui se rencontrent. Et par le fait même, l'amour d'un ami me donne, en plus de l'amour que j'ai pour lui, qui est déjà quelque chose de très beau, il me donne son amour. Et c'est à l'égard de son amour que mon amour s'épanouit pleinement. Vous voyez, l'amour spirituel est à la fois ce qu'il y a de plus fragile en nous et de plus fort. C'est ça qui est très curieux. L'amour est au-dessus, comme tel, de fragilité et force. La vraie force vient de l'amour. La vraie vulnérabilité vient de l'amour. Quand on aime, on est vulnérable. Quand on aime, on est fort. Et ça se fait en même temps. Et ce n'est pas contradictoire. Parce que c'est sous deux aspects différents qu'on est fort et qu'on est vulnérable. L'amour rend vulnérable, c'est pour ça qu'on a toujours des difficultés à aimer. Parce que quand on est en soi, bah, ça va. Dès qu'on aime, on sort de soi et on est vulnérable. On se livre. L'autre peut pénétrer en nous. Et donc, on est vulnérable. Donc sans cette vulnérabilité, et c'est pas agréable, je prends au plan philosophique, hein. Je ne parle pas de la charité, qui est aussi une amitié, mais qui est une amitié divine. Alors, c'est différent, mais il y a aussi, comme amour, ce même phénomène. Quand vous aimez Dieu, vous devenez vulnérable. Et vous avez la force de Dieu en vous. Alors, ce choix amical qui permet
à ma volonté d'aller jusqu'au bout de l'amour. Parce qu'au fond, je ne peux aimer pleinement que quelqu'un qui m'aime. Parce que quelqu'un qui m'aime a vis-à-vis de moi une vulnérabilité, il ouvre son cœur et il est prêt à avouer tout ce qu'il porte en lui et il est en même temps fort. Il a une force qui lui vient de son ami. On est deux. On ne fait plus le combat tout seul. On est deux à ce combat à combattre. On est deux à vouloir chercher la vérité et aller le plus loin possible dans cette recherche. On est deux mobilisés pour ça. Et on est liés dans cette même finalité, ce qui fait qu'on est beaucoup plus fort. Et en même temps, on reçoit beaucoup plus tous les coups de l'adversaire. On est plus vulnérable. Quand je choisis l'ami, dans un acte d'amour, je me donne à lui. Je suis tout à toi. Parce que l'ami est un autre moi-même. C'est bien un autre qui existe, ce n'est pas moi. Mais c'est quelqu'un qui est tout proche de moi parce qu'il m'aime. Et donc, je peux m'approcher de lui sans aucun danger. Et quand je m'approche de lui sans aucun danger et qu'il n'est pas entièrement non mon ami, ça me fait très mal. Je suis bien plus vulnérable à son égard qu'à l'égard des autres. J'exige de lui bien plus qu'à l'égard des autres. Il y a cette ouverture du cœur, il y a ce fait qu'on se livre et qu'on accepte de se livrer. Je touche à ce moment-là quelqu'un qui me finalise, c'est-à-dire qui est pour moi mon bien. Le bien qui m'attire et un bien que j'aime pour lui-même. Je ne l'aime pas à l'égard d'un autre. Ce ne serait plus l'amitié. Sauf dans l'ordre surnaturel où Dieu ne fait pas nombre. Mais à l'égard, au point de vue humain, tous les autres font nombre, forcément. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir plusieurs amis. Mais il y a un ordo caritatis, un ordre dans l'amour. Parce que cet amour d'amitié n'est pas passionnel. Si cet amour d'amitié était passionnel, j'accaparerais mon ami. Je dirais que mon ami, il est tout à moi. Et je ne tolérerai pas qu'il puisse aimer quelqu'un d'autre. Vous voyez, tous les drames viennent de là. C'est que sans s'en apercevoir, la passion prend le dessus. Et la passion, c'est toujours matériel, c'est sensible. Et alors, elle accapare. la causalité matérielle accapare. La causalité matérielle individualise. Et parce qu'elle individualise, elle accapare. Tu es à moi et tu ne peux pas être à quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a une espèce d'accaparement. Alors que l'amour spirituel, s'il est spirituel, n'accapare plus. Parce qu'on sait que aimer quelqu'un, aimer un homme, aimer une créature, c'est nécessairement limité. Et j'ai une capacité vis-à-vis de l'amour qui ne se limite pas à cela. C'est ça qui est extrêmement curieux à l'amour. Il n'y a que Dieu, l'absolu, qui permet à ma volonté de se reposer. Tandis que vis-à-vis d'un être humain limité, je parle au point de vue philosophique. Au point de vue divin, c'est différent, puisque en aimant l'autre, j'aime Dieu, j'aime le Christ. Alors, par le Christ, il est absolu. Et dans le Christ, il est absolu. Mais dans l'amour humain, non. Il n'y a pas le même absolu. De sorte que il y a un ami, mais il peut y avoir plusieurs amis que j'aime toujours en référence avec mon ami, en liaison avec mon ami. Et on s'aime mutuellement, et autant que possible, nous avons les mêmes amis. Et avoir les mêmes amis ne fait que conforter mon amitié. Si au contraire, j'aimais à côté de mon ami quelqu'un qui est en opposition avec mon ami, ce serait une situation tragique. Mais une situation qui impliquerait une tension. Parce que je sais, je saurais qu'il y a de fait entre eux une opposition et je l'aime quand même. Et je devrais donc être suffisamment intelligent pour l'aimer sans diminuer l'amour que j'ai pour mon ami. Ce serait une situation très délicate. Qui ne serait pas le mensonge, hein. Non. C'est pas nécessaire. Il pourrait être traité comme ça, mais c'est pas vrai. Parce que un être humain n'est pas l'amour. Un être humain n'est pas la bonté. Un être humain est bon diversement. Il y a des faces différentes. Il y a des regards différents. Il peut y avoir une opposition vis-à-vis de quelqu'un qui ordinairement peut provenir de certaines circonstances négatives qui ont fait ça et qui empêche la rencontre vraie. Et moi, je peux avoir une rencontre vraie et cet aspect négatif à l'égard de mon ami, je ne le regarde pas. Je ne veux pas le regarder. Et je ne veux pas être juge. Et je respecte. Parce que il y a dans l'amour d'amitié le respect de l'autre. Je vois donc ce que c'est que l'amour dans ce qu'il a de plus extrême. Aimer c'est une extase. Ce n'est pas premièrement attiré vers moi, c'est être attiré vers l'autre. C'est le mouvement premier et plus radical de l'amour. On sort de soi, extase. On n'est plus chez soi, on est chez l'autre. Et effectivement, on le voit bien. Ça permet, voyez, de ne plus être tout le temps tourné sur soi-même. Ça permet de sortir de soi. Et quand on aime profondément quelqu'un, on est tout entier, consciemment tourné vers lui. On demeure chez l'autre le plus possible. On demeure chez l'autre. Extase. Cet amour est donc un acte qui vient de moi et qui me porte à l'autre. Cet acte qui vient de moi et qui porte à l'autre, surtout dans l'amour d'amitié, il est ce qui me finalise. Il n'est pas ma fin, mais il me finalise. Il me permet d'atteindre ma fin. Et ma fin, c'est l'ami. C'est l'ami personnellement. Je comprends alors comment il y a l'acte même d'aimer, l'acte même du choix que je fais de l'ami. Je l'aime. Je l'aime pour lui-même. Je l'aime tel qu'il est. Je ne l'aime pas en référence à un autre. Si je l'aimais en référence à un autre, ce ne serait pas l'ami. Ce serait un moyen qui m'aiderait à aimer l'ami, mais qui ne serait pas mon ami. Tandis que l'ami, c'est vraiment celui en référence auquel tout est relatif. Cet acte d'amour actue ma vie volontaire, ma vie d'amour, it entelekeia. Je porte en moi cet amour. Saint Augustin dit « Amour pondus ». L'amour est mon poids. Et c'est vrai, l'amour est notre poids. Quand notre âme commence à aimer, quand nous commençons à aimer spirituellement, nous avons une gravité qui n'est plus le dilettantisme de celui qui cherche, de celui qui prend son bien à droite et à gauche. On a opté pour l'endroit où on peut s'arrêter. Il y a un arrêt, un repos. Dans tout amour, il y a un repos. Et c'est là où je comprends qu'on demeure dans celui qu'on aime, dans celui qui est ma fin. Et donc, je demeure en lui, entelekeia, et lui est l'acte qui me permet de m'arrêter en lui. Mais je ne me retourne pas sur moi-même pour être heureux d'aimer et considérer que ma fin, c'est aimer. Je considère que ma fin, c'est celui que j'aime. Et je peux le constater d'une façon très nette en faisant que, puisque je l'aime, je ferai ce qu'il désire. Je mobilise mes forces pour pouvoir faire, accomplir ce qu'il désire, ce qu'il veut. Vous voyez ? Et cela me permet de constater que ma fin, c'est vraiment l'ami et c'est pas moi. Parce que dès que j'aime quelqu'un, je me mets à son service. Je t'aime. Dis-moi ce qu'il faut faire pour te faire plaisir. Et si l'autre dit, mon plaisir, c'est que tu m'aimes. Bon, je sais très bien que l'aimer le rend joyeux. Quand j'aime le Christ, je sais que je suis dans la joie du Père. Mais ce n'est pas moi qui ai faim. Vous voyez, il y a là quelque chose qui est très important pour nous, pour nous éduquer nous-mêmes dans l'amour, pour savoir si mon amour, c'est moi que j'aime ou c'est l'autre que j'aime. Quand c'est moi que j'aime, je deviens insupportable pour les autres. Quand c'est les autres que j'aime, je deviens l'ami. Il y a là quelque chose de très subtil, si vous voulez, mais qui est très, très net. Dès qu'on aime, on se met au service de celui qu'on aime. Parce que l'amour demande de devenir efficace. L'amour purement affectif ne suffit pas. Il demande d'être efficace. Et demandant d'être efficace, il me révèle à moi son réalisme, sa vérité, son caractère, on dira, authentique. Quand j'aime quelqu'un, je suis mobilisé par lui. Je suis mobilisé par lui. Il me dira de faire ceci, je le ferai. Je ferai tout ce que je peux pour lui faire plaisir. Et à ce moment-là, je sors de moi-même. Et je continue de sortir de moi-même parce que justement l'amour me permet de sortir de moi et d'atteindre l'autre et de respecter ce qu'il aime. Et moi-même, de vivre de ce qu'il aime. Et donc à ce moment-là, je fais au-dedans de moi-même, dans la conscience que j'ai d'aimer, je fais le partage de entelekeia et energeia. Vous pouvez, par vous-même, dans une expérience interne, parce que l'amour vraiment est lucide, la passion ne l'est pas. La passion n'est pas lucide. On voit tout de suite quelqu'un de passionné dans l'amour, il aime l'autre pour lui-même, comme son bien. Il faut que tu sois là, tout le temps auprès de moi. Parce que quand tu n'es pas là, je dégringole. Donc ça, c'est la passion. On peut dire, quand tu n'es pas là, je me sens plus faible, mais je te respecte. Si tu peux être là, ça me ferait plaisir. Vous voyez, on respecte l'autre. Parce que l'autre est ma fin dans son amour. Et je le respecte par le fait même. Extérieurement, ça pourra être les mêmes actions, mais l'intention sera différente. Et là, je peux en être lucide. Et voir que, en effet, aimer m'accomplit. Je ne suis jamais autant en acte quand j'aime, en acte, point de vue humain, quand j'aime un ami, et quand je l'aime comme ami. Mais je vois bien que ce n'est pas mon amour qui me finalise, c'est l'ami qui me finalise. C'est lui qui est Energeia, qui est l'acte. Je crois que nous pouvons très bien, par nous-mêmes, faire ce partage. Vous voyez que le partage est particulièrement délicat, parce que dans l'amour, on est un. Ah, dans l'amour, on est un. Quand on dit ça, quand dans l'amour on est uni, et non seulement on est uni, mais on est un, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que dans l'amour, on saisit en même temps l'union et la dualité? Quand quelqu'un dit « je t'aime tellement que nous sommes tous les deux un », est-ce que c'est vrai? Non. Dans l'amour, il y a nécessairement la dualité. Ça ne peut pas être autrement. L'amour implique une dualité. Deux personnes. Supprimer la personne de l'autre, ce serait oublier qu'on n'est pas fin dans son amour. On est entelekeia. Parce que l'entelekeia est vrai de l'ami aussi. L'amour de l'ami pour moi fait que je suis fin pour mon ami et non pas sa possession. Qu'il me respecte. Et c'est ce qu'Aristote dit très bien lorsqu'il dit que dans l'amour d'amitié, dans la philia, l'autre est uni à un autre moi-même. L'autre est un autre moi-même. Mais il y a l'autre. Si vous supprimez l'autre, vous supprimez l'énergéia, l'acte. Et vous confondez, vous avez un amour, comme on dit au point de vue psychologique, fusionnel, qui ne respecte plus l'autre, qui fait que on désire qu'il y a unité, et donc on absorbe l'autre. Et absorber l'autre, ce n'est plus l'aimer, c'est s'aimer soi-même. Vous voyez, comme vous avez du côté intelligence, la distinction entre la sincérité et la vérité, vous avez du côté affectif la même distinction à faire entre la fusion affective et l'amitié. La fusion affective, c'est s'unir en croyant qu'on est un, qu'il n'y a plus l'autre. La véritable amitié, c'est l'autre est un autre moi-même. Nous sommes un dans l'amour, mais l'amour n'est pas l'être.